Alain Bashung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux Victoires de la Musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la troisième des 10 émissions qui vous raconte l'histoire d'Alain Bashung.
Les radios francophones publiques présentent
Alain Bashung.
De l'aube à l'aube.
De l'aube à l'aube.
Alain Bashung, de l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golland avec aujourd'hui
Boris Bergman, parolier.
Daniel Tardieu, parolier.
Gérard Baquier, directeur de la production des disques Philips de 1976 à 1984.
François Bréant, clavier dans Gabi.
Dominique Brancard, ingénieur du son.
Jean-Bernard Hébé, producteur et clown médiatique.
Richard Kessler, fils de Joséphine Bashung et cousin d'Alain Bashung.
Pierre Mikhailov. J'ai donc écrit plusieurs biographies, dont celle d'Alain Bashung qui s'appelle Bashung Vertige de la vie.
Marc Besse, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bashung de son vivant.
Bashung, Bashung. De l'aube à l'aube. France Inter.
Troisième épisode, Roulette russe et le phénomène Gabi.
Alain Bashung, bonsoir.
Bonsoir.
Archives Radio France.
On va sauter quelques étapes, mais est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous dites, ça y est, là j'ai trouvé ce qui sera peut-être mon fil, c'est-à-dire que je copie plus les autres, je perds peut-être un peu d'influence américaine, je serai pas Gene Vincent, je serai autre chose, je vais inventer quelque chose à moi.
Je pense que c'est avec un album qui s'appelle Roulette russe, où j'avais l'impression d'avoir découvert un tout petit peu, enfin soulevé quelque chose qui m'était plutôt personnel, parce que j'y mettais des choses vraiment... C'était pas seulement pour faire du texte écrit plus ou moins bien, c'était des choses qui me concernaient. Et ça, c'était assez nouveau, parce que on m'avait fait signer des contrats pour enregistrer des disques. Il n'était pas tellement question qu'on s'investisse personnellement là-dedans. Il était question de vous foutre derrière un micro pour faire un disque qui doit se vendre plus ou moins.
Et puis faire le chanteur, quoi.
Oui, et alors après je me suis aperçu que je ne pouvais pas fonctionner comme ça. Il fallait que ça me ressemble ou que je puisse l'assumer ou être heureux avec, tout simplement. Voilà.
Si Roulette russe est le disque le vraiment qu'on peut considérer comme le point de départ réel de la musique de Bashung, c'est aussi parce que là, sur cet album, il prend enfin la décision de se mettre entièrement dans sa propre musique.
Marc Besse, auteur de Bashung une vie, paru chez Albin Michel.
Avec Roulette russe, Bashung rentre dans son blues, vraiment. Il y a un changement de posture radical par rapport à sa propre musique. Vraiment, la musique devient pour lui le moyen d'exprimer exactement ce qu'il est, où il en est, ce qu'il vit. Et c'est très certainement pour ça que ce disque a une force noire assez particulière. C'est qu'en fait, il est le premier disque autobiographique d'Alain. On est en 78, 79. Il vient de perdre sa mère. Il est en plein divorce. Il traverse une période sentimentale extrêmement dure. Il sait, avec le décès de sa mère, qu'il n'a plus aucune chance, désormais, de savoir qui était réellement son père. On est à la fin d'un cycle, vraiment à la fin d'un cycle. Et ce disque purge tout ça, vraiment.
J'ai plaqué mon job à la station-service, c'était plus supportable. Les filles qui montraient leurs cuisses, rien que par vice dans le décapotable. Elles me crachaient un billet de mille en me demandant de vérifier l'huile. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal.
Le deuxième album, Roulette russe, hein, donc, était beaucoup plus proche de ce qu'était Alain à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que il était plus sombre.
Daniel Tardieu, parolier.
Je lui avais trouvé, par un copain qui lui aussi était en séparation, j'avais trouvé un logement, donc ils cohabitaient tous les deux avec mon autre copain, et donc ils vivaient seuls, centrés complètement sur notre travail, quoi, sur la musique. Il allait au cinéma, il écoutait des disques, et il travaillait avec nous, donc il avait centré complètement sa vie, quoi, sur cet album. Sachant sûrement aussi que, bon, on avait eu la chance d'avoir un premier album et que c'était un peu la dernière chance pour Alain de percer vraiment.
Marc Besse, biographe de Bachung.
Un interprète ne peut bien chanter, porter dans sa gorge et dans sa bouche, mettre en bouche des textes qu'à partir du moment où les mots lui correspondent. Et un auteur connaît cette règle également, qui consiste à s'imprégner un maximum de la valise de mots et de l'histoire du chanteur pour arriver à lui proposer des choses qui soient immédiatement appropriables. C'est très très compliqué ça, surtout quand on veut essayer de faire du rock tout en le mariant avec la langue française. L'époque n'est pas prête, les gens ne sont pas prêts, les auteurs ne savent pas, personne ne réussit. Et bon, ça a pris Alain 15 ans pour arriver à trouver la bonne sauce.
On a jeté beaucoup de chansons, on en a sélectionné quelques-unes.
Daniel Tardieu, parolier.
On a abouti, disons que les trois quarts de notre travail à peu près a été abouti, quoi. Mais il y avait, quand je dis un quart qui était foutu, ouais, plus d'un quart, quoi. À Boris ou à moi... On a jeté plein de chansons.
La méthode de travail était laquelle? Qu'est-ce qu'il vous donnait pour travailler
Il ne donnait rien du tout. Il avait des débuts de texte. Moi, j'avais des débuts de texte. Il regardait un petit peu ce que j'avais en magasin. J'avais des textes complètement finis, d'autres qui étaient des départs. Des fois, c'était des refrains. Il regardait là-dedans, il faisait son marché. C'est-à-dire que, tiens, ça m'intéresse. Mais il ne retenait que quelques vers où l'idée générale du texte lui plaisait, mais les mots sonnaient pas comme il voulait, ou c'était pas les bons mots. Donc, on retravaillait. Il mettait sur l'électrophone, il mettait une rythmique, un disque. Il regardait si la rythmique fonctionnait bien sur mon texte. Et il prenait à la guitare et il cherchait une pulsation. Il n'y avait pas tellement de mélodie. Et puis, à partir de là, il commençait à chantonner, à trouver une mélodie. Et puis, bon, il y a un moment où, ah, là, ça coince, faut que tu me trouves autre chose. Voilà. Donc, c'était un travail de couture, quoi. Je proposais, il trouvait, la musique l'emmenait dans un secteur, il fallait que je rejoigne, et donc on retravaillait, et puis voilà. C'est une méthode de travail que je trouvais plutôt bien, parce que du fait qu'on avait un début parole-musique, mes premières paroles, enfin ce qu'il avait retenu de mes textes, plus sa musique à lui, ça construisait déjà quelque chose, et ça me permettait ensuite de pas rester enfermé dans la logique de mon texte, mais de partir sur la logique qui était les deux collés ensemble, musique et parole, et début de parole. Et donc à partir de là, on avait une ouverture différente.
Sur le volant, je m'étire les jambes sur le siège avant, je m'arrange un peu les valseuses. Dans le rétro, j'ai l'arrêt douteuse.
Alain trouvait des phrasés. Moi, au bout d'un moment, quand j'écrivais, j'avais le phrasé d'Alain dans la tête. Il fallait qu'il y ait une pulsation rythmique, que ce soit ternaire ou binaire, que ce soit des alexandrins ou des heptasyllabes. C'était 12 pieds, c'était 11 pieds, c'était 7 pieds. Je crois pas, ou même des trucs très courts, quoi. Mais il y a toujours quand même chez Alain, il avait ce sens du phrasé, de faire chanter le français à l'américaine, quelle que soit la rythmique.
Combien de temps ça dure une écriture de chanson avec Alain Bachung?
Ça peut être très rapide, hein. On peut en 2-3 jours, 2-3 séances entre nous, arriver à aboutir. Ou alors je finalise chez moi, il y a 2-3 vers qui manquent, ou il y a là tel endroit, tel mot qui lui plaît pas, il faut trouver autre chose, donc je lui propose des trucs même au téléphone. Et puis bon, ça peut être rapide, des fois ça peut être beaucoup plus long. Sur Bijoux, j'ai bloqué terrible à un moment, j'avais les deux premières strophes, on avait le refrain, je trouvais plus la suite, je voyais pas ce qu'il me disait. Je veux des trucs quotidiens, des trucs concrets et tout, j'y arrivais plus. Et donc c'est Boris qui nous a tiré du puits dans lequel on était, quoi. Et en une demi-heure, à tous les deux, on a fini le truc, quoi, sous la pulsion de Boris, qui est très là-dessus, lui, il est très inventif, très immédiat, très ouvert, quoi.
Moi, je pense que Daniel Tardieu est un grand auteur.
Boris Bergman, parolier.
On était complémentaires. On était quand même aussi, je veux dire, peut-être les deux branches d'un même arbre, donc je m'entendais bien avec lui. Ce qui s'est passé, c'est que il était prof de français à l'époque, et il y a une chose qu'il n'a pas réalisée, c'est que quand on commençait à travailler avec Alain, mais il fallait même plus, voilà, fallait avoir sa bouteille pour faire pipi, quoi, je veux dire, à côté, parce que il vous pompait, mais bon. Donc Daniel, à un moment, il n'avait pas travaillé en amont. Donc il avait une superbe idée, je crois qu'il avait les deux, trois premières lignes, je sais plus, pardon, hein, il y a tellement longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment, bon, l'autre l'aidait pas, quoi, il faisait du boudin, en plus il nous faisait ses otites somatiques d'avant-enregistrement, ah, c'était radical, une petite otite, allez hop, juste avant la veille d'enregistrer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, Daniel est venu me demander si je pouvais pas coécrire le truc ensemble. Alors bon... C'est vrai qu'à partir du moment où il y avait le titre, il y avait deux premières lignes, il y a le sujet, il était dans les deux premières lignes, de toute façon.
Bachung l'a dit lui-même, ma vie est dans mes chansons, et Bijou, c'est une partie de sa vie, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur sa vie.
Ben, c'est-à-dire qu'il a... Enfin, moi, j'étais, biographiquement parlant, disons, dans une rupture, je sortais d'une rupture...
Daniel Tardieu.
Et Alain était en pleine rupture lui aussi avec sa première femme, je crois que ça s'appelait Chantal. Et donc ça correspondait, disons, très bien à notre in the mood of rupture. Hein. Et puis moi je cherchais quelque chose avec, pour Bijou, je cherchais quelque chose qui... On lisait beaucoup de romans américains, des policiers, trucs comme ça, et je cherchais une position d'Alain par rapport aux femmes. Et dans les polars, c'est toujours... les mecs sont un peu machos, sont trésors, poupées, vous voyez, le côté un peu... les femmes vues par
le mâle dominant.
Ouais, un petit peu. Et chercher un côté qui soit pas Gainsbourg, mais qui soit quand même une sorte de distanciation par rapport à nos mésaventures amoureuses. Et donc j'ai trouvé trésor poupée, ça allait pas. J'ai trouvé Bijou.
Bijou, Bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, Bijou, Bijou, le temps ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujoux. Oh, oh, oh. Bijou, Bijou, y'a des feux rouges partout. Au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne. À mes cols de chemise, pas de baleine. Oh, 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 oh. Pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts. Veille pas surtout. Je pourrais pas dire au revoir ce matin, j'ai pas le bon bout. Putain, ce que t'as été belle quand tu te mettais à genoux. Oh. Faire de bruit, juste un café et c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai je sais pas où. Oh, oh, oh,
Bachung. De l'aube à l'aube. France Inter.
1979, pour l'écriture des textes de l'album Roulette Russe, Boris Bergman et Daniel Tardieu se partagent la tâche.
Chacun avait ses séances avec Alain.
Daniel Tardieu.
Et puis de temps en temps, Boris et moi on se voyait, on lui pondait des textes collectifs, quoi. Et donc on mettait ensemble nos capacités pour lui écrire des choses. Autant moi je suis, il me faut être à table, il me faut à ma table, mon crayon, je pense tout seul, je me fais des films dans ma solitude et je trouve des mots et je fais mes rythmiques. Et bon, autant Boris, lui c'était une sorte d'explosion, de c'est un feu d'artifice, quoi, d'idées, de il adore. Courir d'une idée à l'autre, sauter d'une image à l'autre ou d'un cliché à un autre pour le déformer. Donc c'était quelqu'un qui était très agréable quand on travaillait tous les deux ensemble. Il était sans arrêt en train de proposer des trucs. Alors on partait quelquefois d'une idée à lui ou à moi et puis on essayait d'enchaîner par une sorte comme ça de saut de cabri, quoi, hein. On essayait intellectuel, on essayait d'enchaîner des images, et donc c'était extrêmement agréable. Mais il avait, dès que j'avais un texte que je lui montrais, il avait cette envie aussi de le travailler, de repartir avec. Donc c'était agréable, c'était très, très positif.
Boris Bergman.
Oui, j'aime bien écrire très vite. C'est un peu une forme de paresse aussi. J'ai envie de voir le bébé très très vite. Puis après, par contre, corriger longtemps, ça me dérange pas. J'ai plus l'impression de travailler, quoi. Et puis je crois beaucoup. J'ai fait beaucoup plus confiance à mon intuition qu'au reste.
Marcel, dépêche-toi, branche-moi la sirène. Je vois un type qui goule, une cassette d'Eric Chardin. Heureusement qu'on est là pour faire respecter la loi.
Pierre Mikhaïlov, auteur de Bachung, Vertige de la vie, paru aux éditions Alphée.
Ce qui est vachement intéressant dans le travail d'Alain Bachung et de Boris Bergman, dans la façon dont ils construisent leur musique, c'est aussi de fouiller leurs références musicales. Et alors, ils écoutent des choses qui ne sont pas du tout considérées comme importantes ou dignes d'intérêt en France. Ils écoutent, c'est vrai, de la country. Ils sont aussi fans de certains crooners comme Dean Martin. Et ils écoutent vraiment des choses qui ne sont pas en odeur de sainteté. Et je pense que là, ils vont puiser une inspiration qui va leur donner une longueur d'avance par rapport à la concurrence, parce qu'en musique, on est toujours en concurrence avec une scène. Et ce côté country, ils vont pas faire à proprement parler de la country, mais je pense qu'ils vont prendre dans la country ce côté humain, ce côté un peu universel qu'on a du mal à comprendre en France parce qu'on reste trop sur l'aspect extérieur des choses, sur le cliché Santiago et chemise à carreaux. Mais à la base, voilà, ça peut, une chanson country touche tout le monde. Et c'est avant tout une aventure humaine. Et c'est ce que vont prendre, je trouve, Bergman et Bachung dans la country, c'est ce côté folk song, ce côté universel.
Boris Bergman.
C'est vrai qu'on écoutait, entre deux chansons, on écoutait du Johnny Kidd dans les Rio Bravo par Dean Martin, Ricky Nelson.
Est-ce qu'on peut parler de vos points communs, Alain et vous?
Déjà, on était des doubles cultures, plus ou moins. C'est-à-dire que lui, même s'il n'est pas alsacien d'origine, a été élevé en Alsace. En plus de ça, bon, il a eu la chance d'être pas loin d'écouter les radios des PX, des radios américaines. Donc, il écoutait la même chose que ce que moi j'écoutais à Londres. Les chanteurs de rock anglais, etc. Bon, déjà, il était double culture. En plus, on aimait tous les deux le country, ce qui était rare. Et même maintenant, les Français adorent le country, mais veulent pas qu'on appelle ça comme ça, parce que ça fait pas chic. Ça fait musique de redneck, de mecs d'extrême droite. Et ça les dérange, mais je suis désolé, mais les plus grandes mélodies d'Alain, enfin celles qui ont fait les grands succès, c'est des mélodies country, je suis désolé.
Daniel Tardieu, parolier.
Moi je venais d'ailleurs, ce qui me manquait c'est la culture musicale que Boris avait, que Alain avait et que j'avais pas.
Mais le fait de s'imprégner de cette culture-là littéraire et musicale, est-ce que ça vous a aidé à proposer à Alain, et comme Bergman le faisait, une autre manière de faire... Je ne vais pas dire swinguer, parce que ce n'est pas le mot que je cherche, mais de faire sonner les mots français par rapport à une musique qui ne venait pas de là.
Oui, complètement. Je crois que c'est un petit peu cette culture commune qu'on avait qui nous a poussé à faire swinguer les mots. Quand on lit la littérature, par exemple, d'un type comme Jean, il fait swinguer les mots en français comme on les faisait swinguer en américain. Et nous, on avait trouvé aussi, on avait commencé à trouver cette rythmique-là. Boris aimait beaucoup les cut-off de Burroughs. Moi, j'avais lu tout Burroughs en entier aussi. Donc, j'étais aussi là dans cette même nervosité de la langue. J'aimais bien quand ça swingait. Ça swingait. Au départ, ça swing chez Mallarmé. Et puis ensuite, ça swing chez Burroughs, et puis ça peut aussi donc swinguer sur du rock, il n'y a pas de problème. Donc on a essayé tous les trois d'accrocher cette rythmique-là.
Je veux pas finir comme un petit Suisse qu'on balance dans un sac
que je m'excite. On me prédique l'amour, le blé, la réussite. Ce sera pour l'autre week-end.
Bachung.
Bachung.
De l'aube à l'aube.
France Inter.
Aujourd'hui, Roulette Russe et le phénomène Gabi.
Je crois qu'à l'époque où Roulette Russe sort, il n'y a pas encore vraiment de public quoi, pour Bachung.
Marc Bess, biographe.
Même si lui a commencé à affirmer une personnalité vraiment caractéristique dans la chanson d'obédience rock française, il est doublé de tous les côtés par des artistes qui affirment des choses plus fortes. Higelin d'un côté, Renaud, Thiéphaine, des gens qui vraiment, sur leur personnalité, attirent directement un public et attirent aussi directement une image et focalisent des médias sur eux parce qu'ils affirment quelque chose de manière beaucoup plus forte que Bachung. Par contre, il y a quand même des gens qui ont bien compris ce qui est en train de se jouer là. Ces gens-là, c'est évidemment les gens qui diffusent du rock dans les programmes nocturnes de Radio France et puis dans les périphériques, RTL, RMC, Europe 1. Il y a des gens comme Jean-Bernard Hébé, comme Francis Zégut, comme Georges Lang, qui sont là et qui, comme Patrice Blanc-Francard, comme Alain Manneval, qui diffusent du Bachung la nuit et qui se débrouillent pour qu'ils rentrent dans des programmations en rotation accélérée. Bon, alors évidemment, on est quand même à une période où il faut se rappeler qu'il n'y a toujours pas les radios libres. On est sur 5 radios qui font la pluie et le beau temps en termes de mode musical et qui sont prescriptrices dans ce qu'il faut écouter ou pas. Donc, bon, il arrive à exister dans les programmes nocturnes, mais dans les programmes diurnes, c'est pas encore ça.
On a dû vendre 2230 centimètres.
Gérard Baquet, directeur de la production des disques Philips.
Et là, c'est posé un problème. Moi, j'avais signé un contrat avec Alain pour un album qui était bien sûr possibilité de reconduire. Et là, la direction m'a dit stop, vous y avez cru, vous avez été le seul, on laisse tomber. Et j'ai eu une idée, on avait un disque en production de Paul Moria, qui était un chef d'orchestre, comme vous savez, qui écrivait, on convoquait des musiciens, ce qu'on appelait des requins, une section rythmique, des cuivres, des plumes, et hop, on lançait le truc, et ça allait très très vite. Et on avait un budget pour Paul Moria, qui était un budget, je dirais moyen, mais comme il allait très très vite dans ses enregistrements, on s'est retrouvé avec une queue de, ce qu'on appelle une queue de séance, une queue de production. Et là, j'ai dit à mon assistante, à Caroline, je lui ai dit, écoutez Caroline, on va dire que tout a été pris pour Paul Moria et on va donner le temps à Alain de faire un titre. Après, on verra. Et avec je crois que c'était un peu moins de 40 000 francs qui nous restaient sur le budget de Paul Moria, on a produit Gabi au Gabi.
On sentait le pâté, quoi. Alain, à juste titre, savait très bien que s'il faisait pas un succès rapidement, on allait nous congédier.
Boris Bergman, parolier.
Et Alain a dit, bah, voilà, ouais, moi je peux pas aller musicalement. Il a repris un texte qui n'était pas... La chanson n'était peut-être pas sur l'album parce que le playback ressemblait beaucoup à celui de Bijou Bijou. Donc il l'avait viré. Et il me dit, voilà, j'ai refait un texte sur... L'après-midi de Max Amphibie, il avait gardé l'essentiel du texte, j'aimerais bien que tu me chantes. Par contre, faut refaire un refrain. Et à l'époque, bon, comme Max Amphibie, on se moquait un petit peu de lui.
C'est Max en fou.
Max en fou, c'est l'éditeur. Comme on se moquait un petit peu de lui par rapport à son homophobie latente, homophobie light, mais homophobie quand même. C'est dur la vie d'un amphibie, etc. et tout. Donc de là, je suis parti amphibie, Gaboun, Gabi, voilà. Bon.
C'est quoi les Gabi?
Les Gabi, c'est les homosexuels, quoi. Les Gaboun. C'est une expression du vous l'avez dans le royaume du milieu, hein, c'est une vieille expression du truand de l'époque des Apaches. Hein, c'est très très vieux l'expression Gabi. C'est comme meuf et keuf, hein, ouais. Comme le verlan, ça date de cette époque-là. Hein. On n'apprend jamais rien, de toute façon, on copie tous quelqu'un. L'important étant d'y apporter quelque chose, comme disait mon ami Yves Robert. Mais oui, c'est parti comme ça. Bon, on ferait le pont après. Bon, ça a été fait très très vite, le texte était pratiquement là d'ailleurs.
Fais mon footing au milieu des algues et des cons. fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Faudrait peut-être que je remonte. J'ai de l'eau dans les branchies. C'est pas toujours gai-gai. La vie d'amphibie.
Le soir de l'enregistrement de Gaby, on est en 81.
François Bréhan, musicien.
Et il y a Blanc-Francard aux manettes. J'avais été convoqué par un ami à moi qui s'appelle Claude Alvarez-Pérez, qui était en charge de cet enregistrement pour Bachung. On arrive dans le studio, bonjour, etc. Et je vois que des copains à moi étaient aussi convoqués pour la séance. Et on s'aperçoit que la chanson, elle n'est pas véritablement prête. Et donc on cherche une façon de la faire tourner avec une mélodie incertaine que Alain balbutiait en yaourt, c'est-à-dire une sorte de langue se voulant évoquer les consonances anglophones. On avait tous le casque, on écoutait son truc et ce qu'il improvisait plus ou moins. Enfin, s'il y avait un vague cadre sur la chanson, mais comme c'est une chanson répétitive avec un riff, il n'y a pas véritablement des sections avec des harmonies qui changent, etc. On était plutôt dans la recherche d'un groove et d'une atmosphère plutôt que véritablement en train d'arranger une chanson bien définie. Donc lui s'inspirait de ce qu'on proposait. Ou au contraire, nous corriger en disant « Non, je sens pas comme ça, c'est trop funky, c'est trop ceci, trop cela. Le riff que tu faisais là, c'était bien, etc. » Sous la houlette de Claude Alvarez-Pérez, mais qui était plus là comme un passeur, comme un directeur musical, que véritablement comme un arrangeur, s'il pouvait pas, le pauvre, arranger une chanson qui n'existait pas encore. Donc, Claude était là pour nous donner des indications et pour peut-être transmettre les idées d'Alain ou les envies. Au bout d'un certain temps, on est arrivé à quelque chose qui ressemblait assez à Gaby, mais qui n'était pas encore Gaby, puisque la mélodie était encore floue. L'intérêt de cette méthode, c'était que ça faisait une mayonnaise qui prenait d'une façon rock'n'roll et groupe, et pas requin de studio, quoi. Même si les gars qui étaient là étaient des requins de studio, ils étaient sollicités, pas comme des requins de studio, mais comme un groupe qui répéterait dans le garage pour aller faire un concert. Donc c'est pour ça que, probablement, que ce titre-là et les chansons de cette époque, ça donne un côté très rock'n'roll. Il y a pas un arrangeur qui a pensé les notes avant, quoi. C'est les gars qui se sont trouvés leurs notes sur le tas. Et le deuxième intérêt, c'est que, en fait, le parolier, à savoir Boris, qui était avachi dans un fauteuil en ayant l'air de rien faire, en fait, écoutait ces phonèmes angloïdes et il disait que ça l'inspirait beaucoup. En fait, que de chanter de chanter des trucs comme ça, ça lui inspirait des sonorités françaises qui généraient des idées en bon français et qui forcément étaient en adéquation avec ce qu'il jouait, puisqu'il était témoin de l'évolution de la chanson.
Je fais mon tout footing. Bon, je fais mon footing au milieu des algues et des coraux et je fais mes pompes, c'est le reste d'un vieux cargo. Je dis bonjour. Et que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot, j'ai mon contrat de confiance. Encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Oh Gaby, tu devrais pas me laisser la nuit, je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gaby, tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs, pas très clair.
Finalement, à la fin de la séance d'enregistrement, on n'avait pas la sensation d'avoir enregistré Gaby fini, parce que les paroles étaient encore des bribes sur le carnet de Boris et les éléments de la mélodie n'étaient pas totalement fixés. À mon avis, il a dû fixer la mélodie quand les paroles sont venues. Et puis, d'autre part, il n'y avait pas le saxophone. Donc, il est quand même essentiel dans la façon de lancer la chanson. Donc, ce son de saxophone n'était pas encore présent. C'était encore, j'avais le sentiment que c'était encore une chose en chantier. On n'avait pas du tout la sensation d'avoir enregistré une chanson historique à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait la magie des paroles. On ne prenait pas la mesure de ce qu'on avait fait, quoi.
Après avoir enregistré cette version sans voix, parce que le texte n'était pas fait et la musique était encore approximative.
Dominique Blanc-Francard, ingénieur du son.
On s'est retrouvé pour enregistrer la voix d'un studio que j'adorais, qui a disparu depuis, qui s'appelait Family Sound Studio, qui était rue d'Hauteville, là où se trouvaient avant les studios Vogue.
On enregistre ça dans l'ancien studio de Vogue, avec Blanc-Francard, un assistant, une assistante, là j'avoue que je me souviens plus.
Boris Bergman, parolier.
Ce qui est marrant, c'est que les portes du chiotte communiquent directement avec le studio. Donc comme Alain boit, évidemment, à l'époque, boit autant de bière, donc il disparaît. Et à un moment, il fait une prise formidable de la chanson, et il va pisser. Je dis, putain, quel dommage, etc. Alors dans ces cas-là, le grand truc que je faisais ici, chez lui, c'est comme je savais qu'à un moment, il avait coupé un passage, et puis il avait rajouté un autre où il voulait du texte. Pendant ce temps-là, moi, j'écris sur le papier et je remonte dans la console à tout blinde. Et puis, je me dis, arrivé au moment, comme c'était un truc un peu gag, arrivé au moment, quand ça va la frite, ça pas les moules, le cochonnet, ça pas les boules, ça va, effectivement, il va se marrer, il va s'arrêter. Et c'était le but. Le but, c'était de le faire tromper, bien sûr. C'est pour qu'il se... Voilà, c'était ce qui... Sinon, c'est pas drôle s'il se trompe pas. Et ben, c'était pas drôle, il s'est pas trompé. Et la prise que vous avez sur le disque, c'est celle-là. C'est une seule prise. Et là, moi j'étais là, j'écoute ça.
Dominique Blanc-Francard.
J'écoute le truc, je dis, mais c'est incroyable cette chanson. Il faut être complètement cinglé pour écrire un texte pareil. Ça ressemble à rien de ce que j'ai entendu au moment où on l'a fait ce truc-là. J'avais jamais entendu un truc équivalent. Et alors Boris dit à Alain, oh c'est génial, je suis hyper content. Et Alain vient écouter, il dit, ah ouais, putain, elle est bien ta chanson. Et moi je leur dis, mais les mecs, vous êtes fous, quoi, c'est un énorme tube. Ils ont éclaté de rire, éclaté de rire. Ils ont dit, mais arrête, mais t'es complètement cinglé, ça marchera jamais ce truc-là. Comment ça, ça marchera jamais? Vous êtes fous, c'est un énorme tube. J'en suis sûr, quoi. Ils me disent, oh là, laisse tomber. Voilà. Bon, on mixe la chanson, et plus on avance vers la version finale, plus j'entends ça, j'ai... Alors ça, si ça passe à côté, je veux bien être pendu, quoi, c'est pas possible. Il n'y a rien dans le paysage qu'on ramène à l'époque d'aussi innovant que cette façon de chanter. En plus, Alain, pour qui ne connaît pas ses albums précédents, avait une voix un peu crooner. D'un seul coup, il devient un peu rocker, il commence à avoir un peu son accent comme ça, les mots, on comprend rien à ces images, mais en même temps, chaque truc veut dire quelque chose. Bon, je dis, vous êtes fous, là, c'est un tube, allez, vous en partie, on a mixé le truc, ils étaient contents et tout. Le truc... Moi, je rentre chez moi, je passe sur d'autres projets, puis ça dure, puis il passe des mois. Puis d'un coup, j'entends un truc à la radio, je dis, tiens, putain, Gabi est sorti. Et ça a mis longtemps à démarrer. Et quand ça a démarré, c'est parti comme une traînée de poudre. Et après, chaque fois que j'ai rencontré Boris, il mord de rire à chaque fois, il me dit, ah ouais, t'avais raison.
Je crois que c'est Alain qui a eu l'idée de mettre l'intro de sax, de Reminiscing de Buddy Holly. Qui est d'ailleurs pas une chanson de Buddy Holly, d'ailleurs, qui est une chanson de Leber Stoller.
Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qui...
Je crois qu'à un moment, Alain voulait doubler stop, le doubler avec un léger décalage, comme un écho.
Boris Bergman.
Et puis, je crois qu'il l'a fait, que ça marchait pas. Enfin, je sais plus pourquoi, ça marchait pas. Et à ce moment-là, Blanc-Francard a dit, si tu veux, moi je vais le faire. Et Blanc-Francard l'a fait de la console sur l'interphone. Et ça a été enregistré comme ça. Et c'est resté comme ça.
Pour savoir dire stop.
Je n'avais jamais imaginé que ma voix serait immortalisée sur un énorme tube.
Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Chant comme un vide, remets-moi Johnny Kid. Oh, Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit.
Bachung.
De l'aube à l'aube.
France Inter.
Alain Bachung a passé son enfance en Alsace, en compagnie notamment de son cousin Richard Kessler. Souvenir d'époque.
Il y avait une fille qui s'appelait Gabi. C'était une des plus belles filles de Mittel. Bon, il y en avait encore d'autres. Mais quand elle voyait arriver Alain, elle était là. Elle était toujours présente. Et ils jouaient de la musique. Et c'était la fête au village.
Vous venez de nous dire, Richard, que Gabi, peut-être la chanson Gabi, tire son origine de la fameuse Gabi qui était fan de la musique d'Alain.
Oui, je ne sais pas le déclic d'Alain, mais connaissant Gabi, c'était le déclic de Gabi pour Alain. Et je pense que cette chanson, toi, c'est Gabi au Gabi, je crois que c'est pour elle.
Gérard Baquet, votre première réaction en entendant Gabi, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
La première fois que j'entends ça...
Gérard Baquet, directeur de la production des disques Philips.
Je me dis, le texte m'éclate complètement. Je dis ça alors, là, Bergman a fait très très fort. Et je trouve tout, l'arrangement, la voix d'Alain, et je me dis, mais on a le truc parfait.
Et ça met du temps à marcher, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah ben, ça a été très très long. Ça a été très très long à démarrer. Moi, j'y croyais dur comme fer. On multipliait les promotions. On envoyait Alain faire des radios. On essayait de vraiment d'accrocher les choses et ça marchait pas. Et puis l'été est arrivé. Il y a eu un petit déclic avec la promotion dans les discothèques.
Est-ce que quelqu'un comme Jean-Bernard Hébé a été déterminant par rapport à la notoriété de ce titre ?
Il nous a beaucoup aidés. C'est tout à fait vrai. Oui, non, mais absolument. Jean-Bernard y a cru, Jean-Bernard l'a passé, mais il y en avait d'autres qui croyaient. Il y avait un chef des programmes d'Europe 1 qui s'appelait Claude Brunet qui trouvait ça absolument formidable. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des émissions où des gens étaient invités et ils s'empressaient quand les gens n'avaient pas envie de programmer un disque ou disaient bon, allez hop, on leur faisait programmer Gabi ou Gabi. Mais c'est vrai que Jean-Bernard a été quelqu'un de tout à fait important. Mais je veux dire, vous savez, Patrice Blanc-Francard, Le Noir, et puis la presse écrite nous a beaucoup aidé. Des gens comme Bayon, ouais, Libé nous a vraiment beaucoup beaucoup aidé.
Moi, j'ai toujours été à la recherche de chanteurs français.
Jean-Bernard Hébé, animateur radio.
J'écoute Gabi et je tombe à la renverse, quoi. C'est formidable. Le mec chante bien, la musique est d'une simplicité biblique. C'est évident, c'est un tube. Jusqu'à maintenant, il y avait un seul type qui posait les mots et qui utilisait des mots nouveaux, en tout cas qui étaient connus pour ça, c'était Gainsbourg. Brusquement, il y en avait un deuxième. Ah ! Ça change la donne, là. On arrive à faire une chanson dite rock'n'rollesque, rock'n'roll, avec un texte en français qui est assez poétique, qui joue sur les mots. Tout ça, si vous voulez, les gens ont... Tiens, c'était nouveau. C'est une nouvelle façon de parler.
Gérard Baquet.
Les gens ont retenu des bribes de phrases. C'était oui, à quoi ça sert la frite si t'as pas à l'évole. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. C'était, on retenait comme ça des bribes. Je vais me découper suivant les pointillés. Ça a été autre chose après qui a fonctionné également. C'était des phrases. Ça racontait une histoire, mais enfin bon, une histoire relativement hermétique pour le commun des mortels et pour la quasi-majorité des acheteurs de Gabi, parce que les acheteurs de Gabi, c'est quand même des gens, les acheteurs de ce disque, ils avaient plus à l'époque l'habitude d'acheter des choses plus faciles, très construites, conformistes, etc. Là, ils ont réussi à faire sonner des mots. Alors, ça voulait pas forcément dire grand-chose, mais c'était extrêmement porteur. Et bon, c'était une nouvelle expression rock'n'roll. Moi, j'ai souvenir d'en avoir parlé avec Gainsbourg, qui était quand même quelqu'un d'orfèvre en la matière. Et Gainsbourg avait été extrêmement séduit par Gabi. Et il trouvait qu'il y avait une forme d'écriture qui était complètement nouvelle et qui sonnait d'une façon détonnante par rapport au reste.
Archives Radio France.
Là, j'ai l'impression que l'angle rock est évident. Vous aviez trouvé votre style là avec cette chanson.
Oui, enfin, il y avait tout un ensemble de choses. Il y avait un peu la façon de raconter des chansons qui était un mélange de surréalisme, d'ironie, de mélancolie aussi. Enfin, c'était ce mélange-là que j'aimais bien parce que c'est, peut-être que c'était pas une attitude totalement française. C'est-à-dire que ça avait plus à voir quand même avec l'état d'esprit. Hein, je parle pas de la musique elle-même, mais ça pouvait être à la fois tragique et drôle. C'était pas comique, mais c'était presque vénérer le rock et le démolir en même temps. Il y avait de ça. Et en France, on avait l'habitude de faire l'un ou l'autre, mais pas les deux.
Ça a pris à Alain 15 ans pour arriver à trouver le bon amalgame, le bon alliage.
Marc Bess, biographe de Bachung.
Il a fallu qu'il rencontre quelqu'un comme Boris Bergman pour que, à un moment, de deux envies communes, une de la part de Bergman de réformer l'écriture de la chanson en France et une de la part de Bachung de réformer la manière d'envisager la musique populaire en France, de cette association des deux naissent ce qui deviendra, aux yeux de tous, Gabi au Gabi, mais qui avait déjà démarré deux albums avant avec Roman Photo et Roulette Russe.
Boris Bergman.
C'est vrai que, comme Alain était abreuvé de chansons américaines qui venaient d'IPX, comme il parlait quand même, à mon avis, beaucoup plus souvent un dialecte alsacien que français, quand même, bon, qui est une langue germanique, enfin bon, l'anglais et l'allemand sont les deux branches d'un même arbre, ils ont la même mère. Hein. Donc c'est vrai que, avec Alain, j'ai pu fonctionner comme je fonctionnais à l'époque où je ne faisais pratiquement que des textes anglais. C'est-à-dire que pour moi, c'était le son qui donnait le sens. Donc quand j'arrive sur une musique, même encore aujourd'hui, c'est le son qui m'amène le sens, c'est le son qui m'amène l'idée.
Marc Bess.
Bergman a complètement révolutionné, même si le terme est absolument barbare, a révolutionné l'écriture de la chanson d'obédience rock en France, quoi. Mais c'est surtout au niveau de la rythmique que Bergman a créé quelque chose. Là, on est sur une danse des mots qui est complètement différente de la tradition du texte chanté, comme il pouvait l'être dans la chanson française traditionnelle.
C'est pas bien. Elle se fait rougir toute seule. Elle se fait rougir. Bachung.
Bachung.
De l'aube à l'aube.
À l'aube.
Une émission de Gérard Sutter et David Golan.
Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques, réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Croballion et Ralph Dallaire. Merci à Lina pour la mise à disposition des archives de Radio France.